Chers auditeurs et auditrices, nous continuons cette deuxième série concernant l'importance de la rédemption. Nous en sommes à l'étude numéro 36 et nous aurons trois petites méditations dont les titres sont les suivants. Premièrement, le problème de la conscience. Deuxièmement, le problème de la volonté. Troisièmement, foncer par l'Esprit Saint. Donc, premièrement, le problème de la conscience. Le premier principe de la plénitude, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est écrit et notez bien Éphésiens chapitre 4, verset 30. Quand il t'arrive de pécher après la nouvelle naissance, que dois-tu faire? Cher auditeur et auditrice, que dois-tu faire quand il t'arrive de pécher? Surtout après avoir connu le bonheur de la nouvelle naissance. Il semble donc que nous pouvons toujours encore chuter. L'Écriture sainte nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 39. Marquez bien toutes ces indications. Romains 8, verset 31 à 39. Et pourtant, notre conscience semble nous dire le contraire. Lorsque nous avons désobéi à Dieu, nous sentons très bien que nous avons perdu son approbation. Nous n'osons plus le regarder en face, nous n'osons plus prier. En un mot, nous avons une mauvaise conscience. Nous sommes dans un dilemme en ce moment. Car d'un côté, la Bible nous dit que Dieu a effacé nos péchés et nous considère justes comme Christ est juste. Et d'un autre côté, nous nous sentons coupables. Quelle attitude devons-nous donc prendre? La réponse est immédiate. Il faut se repentir. Et ensuite, est-ce que j'ai besoin d'obtenir encore une fois le pardon de Dieu? Les Saintes Écritures révèlent que nous avons au ciel un accusateur et un avocat. D'après Die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 12, verset 10, le diable, c'est lui l'accusateur de nos frères et sœurs. Celui qui les accusait déjà devant notre Dieu jour et nuit. Mais, heureusement qu'il y a un mais. Par contre, dans la première épître de Johannes de Saint Jean, chapitre 2, verset 1, vous pouvez lire que il est dit « Je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Lorsque tu as péché, lorsque tu as commis un péché, mon cher frère, ma chère sœur, ce n'est pas Jésus-Christ qui t'accuse, mais non, c'est le diable. Le diable fait pression sur ta conscience qui reconnaît le mal que tu as fait. Il veut te faire croire que Dieu te condamne maintenant et te ferme définitivement la porte. Il t'a rejeté totalement à toujours. À la fin, tu n'as plus que t'attendre à l'enfer. Donc, est-ce que tu comprends? Son but à l'ennemi et de déformer l'image de Dieu au point de te faire oublier la valeur du sang de Jésus-Christ. C'est cela. Au lieu de voir Dieu en Christ crucifié, il veut que tu le vois en ennemi, comme si Christ t'en voulait à mort et te rejetait. C'est-à-dire qu'il ne t'aime plus du tout. Il est donc plus difficile de croire à l'amour de Dieu que à n'importe quoi. Et si le diable réussit à t'enlever cette conviction, il peut te plonger dans le découragement et le désespoir. Ça, c'est le rôle de l'accusateur. Évidemment, il aurait raison si Jésus-Christ n'était pas mort pour expier ce péché et il est ressuscité pour te justifier. Il possède donc un argument terrible dans la justice de la loi de Dieu. Seulement, c'est un faux argument puisque cette justice est déjà satisfaite. Voici en forme imagée ce qui se passe. Le diable se tient là, devant Dieu, pour t'accuser. Ta conscience subit toute la force de son accusation, mais le diable essaye de te faire croire que c'est la justice de Dieu qui t'accuse à mort. Voilà pourquoi tu es écrasé. Mais regarde un peu. À la droite de Dieu le Père, tu as un avocat qui prend ta défense et qui répond pour toi à chacune de tes faillites. Jésus-Christ ne t'accuse pas. Il plaide ta cause et il prie pour toi. C'est le thème de l'Épître aux Hébreux que tu peux retrouver dans les passages suivants. Veuille bien noter cela. Hébreux 2, versets 17 et 18. Hébreux 4, versets 14 à 16. Hébreux 7, versets 11 à 15. Et les versets 24 à 28. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15. Et le verset 24. Hébreux chapitre 10, versets 10 à 14. Et 19, versets 19 à 22. Donc du chapitre 10. Le chapitre 10, donc j'ai dit versets 10 à 14 et versets 19 à 22. Le Père, notre Père céleste, il voit sans cesse les mains percées de son Fils bien-aimé. Il a éternellement devant lui l'argument de son sang versé pour toi. Oh oui, argument qui ferme la bouche du diable. À l'occasion du diable, à cette accusation terrible, Jésus va répondre ceci. La justice de la loi de Dieu est maintenant satisfaite puisque ce péché est déjà expié. La croix est un fait accompli, accompli. J'ai payé en personne ce défi et ce délit, surtout ce délit. Donc, Christ a payé pour ce délit. Ça ne veut pas dire, attention, que je dois prendre ça à la légère. Pas du tout. C'est très sérieux. Mais le Seigneur, il dit, j'ai déjà subi son enfer. Les cicatrices dans les mains de Jésus, le sang qu'il a versé, sont le témoignage éternel que ton dossier est clos. L'affaire est classée. Il n'y a pas de suite. Satan, il est tordu et astucieux. Si tu l'écoutes, tu seras dans un état de perpétuel découragement, tourmenté par ta conscience. Et tu finiras par oublier ce que Christ a fait pour toi. Mais si tu écoutes la voix de ton avocat, tu entendras chaque fois ces paroles merveilleuses qui disent « Mon enfant, tu es pardonné, ton péché est expiré. » Je n'ai pas dit que nous devons prendre le péché à la légère. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est là le miracle de la grâce de Dieu. L'œuvre de Christ sur la croix n'est pas conçue seulement pour te sauver d'un enfer futur, mais pour te sauver aujourd'hui de l'accusateur. Oui, mon frère et ma sœur, tu es pardonné. Mais tu me répondras sans doute, c'est très beau tout cela, mais c'est un peu léger, c'est trop facile. Comment ça? Je pécherai donc contre Dieu, hein? Et puis, sans rien faire, chaque fois, l'éponge serait passée. Ma conscience ne me permet pas de croire à une solution aussi facile. Eh bien, mon frère et ma sœur, tu as raison. Tu as raison de ne pas croire à une solution trop facile. En effet, souviens-toi que pour Dieu, la solution n'a pas été facile, car pour ton moindre petit péché, Dieu a enduré l'enfer. Il a dû rejeter son Fils bien-aimé et il a dû verser son sang. Pour Dieu, ce ne fut certainement pas facile. Pourtant, Dieu veut que tu croies à l'efficacité réelle de ce sacrifice. Jésus lui-même a crié sur la croix, « Tout est accompli. » Saint Jean, chapitre 19, verset 30. Ne pas compter sur son pardon, c'est en fait de l'incertitude, ou plutôt de l'incrédulité. Voilà. Le diable veut alors t'enlever cette certitude et il veut te replonger dans l'angoisse. Or, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Est-ce Dieu? Dieu est celui qui justifie. Alors, qui les condamnera? Est-ce Christ? Le Christ de Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Notez Romains, chapitre 8, versets 31 à 35. Mon frère et ma sœur, est-ce que tu réalises la totalité de l'œuvre accomplie en ta faveur? As-tu réellement compris la valeur du sang de Christ? Dieu nous appelle à entrer dans sa présence parce que Jésus est notre sacrificateur et non pas notre ennemi. Et là, tu peux noter Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. Notre pardon est déjà acquis. Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Mais est-ce réellement tout ce qu'il nous faut savoir pour retrouver notre communion avec Dieu? Chers amis, quels sont les deux aspects du pardon de Dieu? Il y a tout de même une condition qui s'attache à la libération de notre conscience. Le Nouveau Testament nous fait comprendre très clairement que la seule base du pardon de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais il y a deux aspects de ce pardon. Premièrement, il y a le pardon judiciaire de Dieu. Avant le jour de ma nouvelle naissance, Dieu était mon juge et moi, j'étais l'assassin de son fils, poursuivi par sa loi. Je répète, le pardon judiciaire de Dieu, eh bien, il y a donc ce pardon. Car avant le jour de ma nouvelle naissance, Dieu le Père était mon juge et moi, c'était l'assassin de son fils, poursuivi par sa loi. Mais voilà, ce jour-là, Dieu, en tant que juge, pardonna tout mon péché, passé, présent et die Zukunft, et futur. Depuis, il ne voit plus mon péché, car à ses yeux, je suis juste comme Jésus-Christ est juste. Peut-être tu as de la peine à croire cela, mais je vais toujours donner les indications bibliques précises. Je ne me permettrai pas de dire quelque chose à ma fantaisie, car j'aurai une lourde responsabilité de Dieu, devant Dieu. Hein? C'est sérieux. Donc, je répète. Ce jour-là, Dieu, en tant que juge, a pardonné tout mon péché, passé, présent et futur. Depuis, il ne voit plus mon péché. À ses yeux, je suis juste comme Jésus-Christ est juste. Il considère mon péché comme appartenant à Jésus et sa mort comme étant la mienne et la tienne. La justice de Jésus-Christ est devenue ma justice. Je dis, la justice de Jésus-Christ, elle est devenue ma justice et ta justice. Mon cœur est maintenant à Jésus-Christ et sa résurrection est devenue ma vie nouvelle. Et par cet acte de Dieu, c'est là, par cet acte-là, que saint Paul appelle dans Romains chapitre 6, versets 3 et 4, le baptême spirituel, dont le baptême d'eau est le symbole. Soyez baptisés par immersion. J'ai été identifié à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Puisqu'il me considère maintenant comme étant mort avec Christ, il peut enfin me pardonner ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Et c'est grâce à son pardon que je peux dès lors recevoir sa vie de résurrection. Elle m'est donnée à l'instant même où son Esprit Saint entre en moi. Ézéchiel, chapitre 37, verset 10 et le verset 14. La nouvelle naissance est donc le résultat direct du pardon judiciaire de Dieu. Et ce pardon est définitif. Notez Hébreux chapitre 10, versets 17 et 18. Heureusement, heureusement, que notre salut dépend d'un acte de Dieu et non pas de notre ténacité ou de notre volonté. Et deuxièmement, quel est le pardon paternel? Quel est le pardon paternel de Dieu? Eh bien, à partir de cet instant, Dieu n'est plus mon juge, car il devient mon père, mon papa. Je ne suis plus à ses yeux un criminel épouvantable. Je deviens son enfant. Je l'appelle Abba, papa. Note Romains, chapitre 8, verset 15. Quand je suis conscient d'avoir péché, je n'ai plus affaire avec lui sur le plan judiciaire, mais j'ai affaire avec lui comme l'enfant vis-à-vis de son papa. Dieu, en tant que juge, ne voit plus mon péché, mais ma conscience le voit bien et me tourmente. Un gros nuage noir monte entre moi et le soleil de sa présence. Je suis toujours son enfant. Et il est toujours mon père, mais je ne vois plus sa face. Voilà le problème. Je ne vois plus, je ressens plus sa présence. J'ai perdu non pas mon salut, non, je n'ai pas perdu mon salut, mais j'ai perdu ma communion avec lui. Avez-vous bien compris? Je répète, j'ai perdu non pas mon salut. Ne me faites pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que celui qui est parti de son père pour s'occuper des cochons et même pour finir de manger comme les cochons, eh bien, c'était pas, il n'était pas rejeté pour toujours. Il a pu retourner vers son papa, qui lui a ouvert les bras, même si vous ne me croyez pas. Alors, ma communion avec lui, c'est la seule chose que j'ai perdue, et c'est beaucoup. Jésus raconte l'histoire du fils prodigue pour illustrer cette vérité-là. Dans Saint Luc, chapitre 15, le fils était toujours le fils de son papa, mais il était en révolte, loin de la maison, dans la misère, parmi les pourceaux. Il avait peur de revenir vers son père. Il se faisait sans doute une fausse idée de lui, croyant qu'il le rencontrerait, par exemple, avec le fouet et des pitbulls. Hein, va savoir. Mais bien au contraire, quand il est rentré en demandant pardon, son papa l'attendait, non pas avec un fouet et des pitbulls. Il l'attendait, il l'a embrassé et il l'a réinstallé dans la famille. Vous, peut-être, vous n'auriez pas fait autant. Ah oui, il faut faire attention. Nous sommes beaucoup plus terribles que Dieu le Père. Ainsi, à chacune de mes faillites, je dois simplement revenir. Revenir à mon Père céleste, et lui confesser ma faute. Satan essaye de m'en empêcher en me faisant croire que le Père me chassera de sa présence à toujours. Il veut me voir rester au loin parmi les cochons. Tant que je ne crois pas au pardon de Dieu, je dis bien tant que je ne crois pas, hein, parce que je ne veux pas y croire, au pardon de Dieu, il me tient dans un état de dépression et d'impuissance spirituelle. Et tant que ma conscience est souillée, le Saint-Esprit est attristé et il cesse momentanément, je dis bien momentanément, de me remplir. Pour avoir le pardon judiciaire de Dieu, il y a une seule condition. Elle est répétée plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Crois au Seigneur Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Pour avoir le pardon paternel de Dieu, il y a également une seule condition. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Premier épître de Johannes, de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Ce passage, comme toute la première épître de Saint Jean, est adressé aux croyants. Avez-vous compris? Comme nous avons obtenu le pardon judiciaire de Dieu par la seule foi en Christ, ainsi nous obtenons son pardon paternel par la foi sur la base du même sacrifice de Christ une fois pour toutes. Ce que Dieu demande de nous, de toi et de moi, c'est la véracité, l'honnêteté absolue. Dieu exige une confession, tout simplement. Nous devons reconnaître ce que nous avons fait. Je dois reconnaître ce que j'ai fait. Ce qu'il ne tolère pas, c'est que nous essayons de nous justifier, hein, habilement, par toutes sortes d'excuses, de nous excuser ou de nous esquiver. Il faut appeler le péché par son nom, tout simplement. Et à cet instant même, nous recevons le pardon paternel de Dieu. Le pardon judiciaire, nous l'avions déjà. Maintenant, Dieu nous pardonne aussi en tant que Père, et toujours pour la même raison, c'est le sang de son Fils bien-aimé qui a été versé pour notre péché. Il est fidèle, car il l'a promis, et il est également juste, car Christ est mort et ressuscité. Il nous pardonne et nous purifie aussi de tout péché si nous le confessons. La condition, la seule, pour obtenir le pardon de notre Père céleste, c'est la confession du péché. Nous ne pouvons rien faire pour l'expier. Nous n'avons même pas besoin de le faire, puisque Christ l'a déjà fait. Il nous faut simplement nous présenter devant lui tel que nous sommes, comme le lépreux dans Saint Matthieu, chapitre 8, verset 2, que Jésus-Christ a guéri instantanément. Dieu est lumière, et à la lumière de sa face, toute imperfection est immédiatement mise à nu. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous purifie de tout péché. Notez 1er épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 5, verset 7 et le verset 9. J'ai dit de la première épître de Saint Jean. À ma confession, Dieu répond, mais il répond ceci. Écoutez bien, il dit « Mon enfant, la question a déjà été réglée par mon fils et il y a de cela plus de 2000 ans et où ? Sur la croix. Nous n'avons donc plus besoin d'en parler. Tourne la page, mais nous ne voulons surtout jamais tourner la page. Nous voulons ressasser les choses anciennes sans arrêt. » C'est le travail de l'ennemi, ça. C'est pas le travail du Seigneur. Lui, il tourne la page, il envoie le péché au fond de l'océan et il ne veut plus qu'on s'en souvienne. Il tourne la page de mon dossier, il ne revient plus jamais sur cette question-là. Cependant, il me place à nouveau devant la croix. Elle est vide, mais J'entends la voix de mon Père qui me dit « Mon enfant, souviens-toi du sang de mon Fils. Voilà donc le prix de ton pardon. Et voilà pourquoi tu es de nouveau en communion avec moi. Par cette discipline, je me relève purifié après chacune de mes faillites, mais aussi avec une haine accrue pour le péché. Je vais de moins en moins aimer, plonger dans des fautes, de moins en moins. Je comprends mieux l'amour de Dieu pour moi, son incalculable générosité, son étonnant pardon envers la misérable, ou plutôt le misérable que je représente. Tu me diras peut-être, pourtant je sens le besoin de pleurer amèrement sur mon péché. Eh bien oui, pleure mon cher frère, ma chère sœur, pleure autant que tu voudras, mais pleure dans la maison de ton Père céleste, dans ses bras, pleure dans ses bras. Contre son cœur, et non pas dans le pays lointain parmi les pourceaux. Une personne m'a un jour demandé, mais à qui faut-il confesser son péché? Faut-il le confesser au prêtre ou à Monseigneur tel et tel? Eh bien, il y a trois réponses. La Bible enseigne que tout péché doit être confessé uniquement à qui ? Uniquement à Dieu. À Dieu, puisque tout péché est une infraction à sa loi. L'apôtre Paul pouvait dire, « Frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour-là. » Ça, c'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 1. L'apôtre Paul ne voulait pas dire pour autant qu'il n'avait jamais péché depuis sa conversion. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit plutôt qu'il avait toujours confessé son péché. Il avait chaque fois réglé ses comptes avec Dieu. Mais si mon péché concerne aussi mon prochain, si j'ai fait du mal à mon frère, à ma sœur, il ne suffit pas tellement de le confesser uniquement à Dieu. Il faut aussi le confesser à Dieu d'abord, bien sûr, cela va sans dire, mais Dieu me répondra, mon cher enfant, je ne suis pas le seul, mais pas du tout le seul dans cette affaire, car tu as aussi péché contre ton frère, contre ta sœur. Donc va vers lui, vers elle, et confesse-lui ton péché. Ensuite, viens à moi et je te pardonnerai. Si ton frère te pardonne, tant mieux. S'il ne te pardonne pas, ça c'est son affaire à lui. Il prend des risques lui, pas toi, car toi, tu étais sincère. Au moins, tu auras libéré ta conscience. Il faut que tu sois honnête, non seulement avec moi, mais aussi avec les hommes. Si j'ai commis un péché qui devient public et qui traîne dans la boue le nom de Christ, Dieu s'attend alors à une confession publique. Et là encore, il veut que je sois honnête, que je reconnaisse la vérité, que je marche dans la lumière, et Dieu revendique l'honneur du nom de son Fils. Saint Paul, il dit encore, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Notez Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 16. Certaines personnes demandent, voyons, n'avons-nous pas besoin d'un confesseur ? Hein ? Si mon péché n'offense que Dieu seul, c'est aussi à lui seul que je dois le confesser. Est-ce que vous comprenez cela? L'Écriture sainte n'enseigne nulle part la nécessité de le confesser à un autre que celui qui est offensé. Ce n'est pas mon Seigneur qui est offensé, c'est Dieu le Père et Dieu le Fils. Si un homme commence à recevoir les confessions de tout le monde. Mais je vous demande, comment pourra-t-il rester pur et droit dans son âme en écoutant tous ces vilainies? Voyez-vous, l'homme n'est pas fait pour cela. Ça, c'est le travail uniquement de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Il est vrai que nous avons parfois besoin d'aller demander les conseils d'un homme ou une femme, de Dieu ou d'un ami, et de lui ouvrir notre cœur. Ça, c'est pas une erreur, car nous ne savons pas tout. Il y a des fardeaux que nous n'arrivons pas à porter toujours tout seul. Mais soyons quand même prudents dans ce domaine et respectons la conscience de celui à qui nous nous livrons, car lui ou elle aussi est un être humain, donc lui ou elle est aussi en quelque sorte un pécheur, qu'il soit prêtre ou qu'il soit pasteur, car lui aussi a besoin de nos prières. Ne faisons pas de lui une poubelle. La Sainte Bible dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Voici donc le deuxième commandement de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous donne sur lui-même. Ça, c'est le deuxième commandement que l'Esprit de Dieu nous donne sur lui-même. Il est certes attristé, ça c'est certain, par notre péché. Mais la tristé, c'est pire encore que de péché. C'est rester dans un état de péché. C'est garder une mauvaise conscience. Et dès que l'Esprit Saint est attristé, il cesse de nous remplir. Il est toujours là, hein, ne me faites pas dire autre chose, mais au lieu de remplir la maison, il reste au grenier ou à la cave. Il est donc dangereux d'attrister l'Esprit de Dieu. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 63, verset 10, que Israël, dans le désert, attrista l'Esprit au point qu'il est devenu leur ennemi et qu'il a lutté contre eux. Il était toujours au milieu du camp, bien sûr. La gloire de Dieu était dans le tabernacle, mais il refusa de les mener plus loin. Alors ils ont perdu des années à piétiner en plein désert. Ce que je confesse, et dès que je confesse mon péché, à ce moment-là, je cesse d'attrister le Saint-Esprit. Et de nouveau, il me remplit. Et je suis en communion avec mon Père et je vois à nouveau sa face. Cette première condition de la plénitude de l'Esprit Saint se résume donc en un seul mot. C'est la repentance. La repentance. Mais la repentance n'est pas simplement de la tristesse, car le fils prodigue était bien triste parmi les pourceaux, et pourtant cela ne lui servait de rien. Il lui a fallu confesser son péché au Père qui l'avait offensé. La véritable repentance se traduit toujours en confession de péché, sinon elle est vaine, elle est inutile, comme celle d'Ésaü qui fut rejeté malgré toutes ses larmes. Hébreux, chapitre 12, verset 17. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse trouve de la compassion. Proverbe, chapitre 28, verset 13. Notre deuxième méditation, c'est le problème de la volonté. Oh là là, la volonté, la discipline, tout ça, il y en a que ça ne leur plaît pas du tout. Le deuxième principe de la plénitude nous enseigne « N'éteignez pas l'esprit ». 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Voici donc le deuxième obstacle à la foi, une mauvaise volonté. Tous les jours, matin, midi et soir, nous avons besoin d'examiner notre conscience et aussi notre volonté, et cela afin d'être constamment en règle avec Dieu. Sinon, notre foi va faiblir. Ce troisième commandement au sujet du Saint-Esprit concerne donc notre volonté. Éteindre l'esprit, cela veut dire lui résister. Quand on coiffe une flamme, c'est-à-dire quand on la recouvre, elle va s'éteindre. Le luminon est toujours là, bien sûr, mais il ne flambe plus, il n'éclaire plus. Donc, la désobéissance éteint l'Esprit Saint. Israël, dans le désert, après avoir tenté Dieu 10 fois en étant arrivé au point d'éteindre l'Esprit Saint, c'est écrit dans les Nombres, ça se trouve dans l'Ancien Testament, hein, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, chapitre 14, versets 20 à 23. Pendant les 38 années suivantes, il garda le silence. Alors qu'avant cette révolte, Dieu donnait à Moïse révélation sur révélation, par la suite, il ne lui communiqua pratiquement plus rien. Là, ça fut une période de stérilité. Israël avait choisi de désobéir. L'Esprit de Dieu respecta son choix et le laissa faire. Le châtiment de Dieu est terrible lorsque le Saint-Esprit ne nous trouble plus, ne nous pousse plus, n'ouvre plus le ciel de la communion avec le Père. Et cela peut arriver non seulement à des individus, mais aussi à des églises, à des communautés et à des mouvements spirituels. L'histoire de la chrétienté en est remplie d'exemples. L'Esprit de Dieu est très patient, très compatissant. Il fait l'impossible pour nous amener à l'obéissance, mais il ne nous y force pas, car il respecte notre personnalité et notre volonté, alors que les esprits méchants ne respectent ni l'une ni l'autre. Si donc je persiste dans la désobéissance, le Saint-Esprit finit par me prendre au mot et se tait. C'est la chose la plus tragique qui puisse arriver à un enfant de Dieu ou à une église. Tout acte de désobéissance est le commencement d'une extinction de l'Esprit-Saint. La Bible insiste depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse sur la nécessité de l'obéissance à la volonté de Dieu. Si l'homme n'obéit pas aux lois de la nature, il souffre inévitablement les conséquences de sa folie. L'homme intelligent rend sa vie conforme aux lois de la physique, de la chimie et de la biologie. Il sait bien qu'elles sont faites pour le maintenir en santé et que tout abus l'entraîne dans une dégradation de ses facultés. Ainsi, le chrétien spirituel, on pourrait dire intelligent, rend sa vie conforme à la loi de l'Esprit de Dieu, sachant qu'elle est conçue pour son bonheur et pour le rapprocher de Dieu. Le Saint-Esprit a inspiré toute l'Écriture sainte afin que nous connaissions la pensée de Dieu et que nous la respections. Si dans le domaine physique, la désobéissance est dangereuse, à combien plus forte raison qu'elle est dangereuse dans le domaine spirituel. Il y a une différence entre obéissance et légalisme. Je répète, il y a une différence entre obéissance et légalisme. Voilà un mot qu'il faut essayer de comprendre. Le Nouveau Testament condamne le légalisme mais exige l'obéissance. Il fait d'ailleurs une distinction entre les œuvres mortes et les bonnes œuvres. Les œuvres mortes sont les efforts de la chair pour se justifier et pour se faire passer pour quelque chose de valable. Elles ont comme mobile l'orgueil et l'égoïsme, alors que les bonnes œuvres sont la floraison spontanée de la vie de Christ en nous. Le légalisme agit dans le but d'acheter la faveur de Dieu. Or, le chrétien spirituel, étant déjà sauvé, agit par amour et par gratitude envers Dieu. Il n'y a réellement pas de conflit entre la loi et la foi. Jésus, dans Saint Matthieu chapitre 22, verset 37 jusqu'au verset 40, résume toute la loi de Dieu en un seul mot, l'amour. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, je ferai spontanément les choses qui lui sont agréables et j'aurai en horreur celles qu'il considère comme péché. Si j'aime mon prochain comme moi-même, pour rien au monde, je ne voudrais lui faire du mal. Je ferai plutôt tout mon possible pour lui venir en aide. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Notez Galates, chapitre 5, verset 22. Être rempli de l'esprit, c'est avoir un amour réel et intense pour Dieu et pour mon prochain, c'est être animé du désir constant d'accomplir la volonté de Dieu et de faire du bien à mon prochain. Ainsi, Saint Paul, il dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Romains, chapitre 13, verset 10. Et que la vraie foi, la véritable foi, elle est agissante par l'amour. Galates, chapitre 5, verset 6. La plénitude de l'Esprit Saint développe ma foi et celle-ci s'exprime en amour. La loi de Dieu est gravée dans mon cœur par l'Esprit Saint. Notez Hébreux chapitre 10 verset 16. Elle n'est donc plus un joug, mais elle devient ma joie. La nuit avant sa mort, dans la chambre haute, Jésus disait à ses disciples, sans doute le cœur gros de chagrin, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » L'obéissance est la preuve de notre amour. Ensuite, le Seigneur Jésus promet à ceux qui gardent ses commandements, il leur promet une révélation de sa personne et de son amour au-delà de toute imagination, à tel point que le Père lui-même se manifeste à eux. Saint Jean, chapitre 14, versets 21 et 23. Le chrétien désobéissant ne connaît rien de ces bénédictions extraordinaires. Il vit en marche de la réalité dans une pénombre mondaine. Mais la volonté de Dieu est souvent difficile à réaliser. Dieu nous demande des actes de courage et de dévouement dont nous sommes nous-mêmes incapables. Nous sommes incapables de vraiment faire tout pour plaire au Seigneur. On peut aller jusqu'à dire que toute la vie spirituelle, celle qui accomplit la volonté de Dieu, est surnaturelle. Sans la plénitude de l'Esprit Saint, il est impossible de vivre la vie de Christ dans ce monde qui l'a crucifié. Or, cette vie est pourtant possible, elle est possible à celui qui croit. Jésus n'a-t-il pas toujours dit « qu'il te soit fait selon ta foi » L'apôtre Paul, il appelle cela l'obéissance de la foi. La Sainte Bible en est remplie d'exemples. Noé, il a cru à Dieu, et c'est pourquoi il a construit l'arche. Quel acte de foi et d'obéissance! Abraham, il a cru, et c'est pourquoi il partit sans même savoir où il allait. Moïse est allé au-devant de Pharaon sans armes ni force. Devant le Jourdain, le peuple de Dieu a obéi en allant tout droit vers l'eau. Et sur l'ordre de Jésus, l'infirme a levé son bras qui était desséché et il fut guéri en obéissant. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à obéir de la même façon. Quand même la volonté de Dieu semble impossible, si c'est lui qui appelle ou qu'il commande, eh bien il nous faut obéir. Alors la récompense sera grande. L'histoire de l'Église et des missions est un tissu d'exemples d'hommes et de femmes de toutes sortes, le plus souvent sans grande capacité naturelle, qui comptèrent, on peut dire qu'ils ont compté sur Dieu pour l'impossible, et ils n'ont jamais été déçus. Je pense à l'histoire tragique du roi Saül, dans le premier livre de Samuel. Il a désobéi trois fois à la parole de Dieu, toujours sur des questions apparemment sans grande importance. Il a fait la volonté de Dieu, mais non pas, il n'a pas fait la volonté totalement, entièrement. Et Dieu, cependant, l'a rejeté. Et sa fin reste un avertissement solennel pour tous, y compris pour toi comme pour moi. Pourquoi Dieu a-t-il rejeté un homme qui avait en grande partie fait sa volonté? C'est parce que Dieu est amour. Et si l'amour donne tout, absolument tout, eh bien, vous comprendrez qu'il réclame également tout en retour. Prenons un mariage. Un mariage ne peut subsister que s'il est bâti sur un amour réciproque et absolu. L'amour ne peut tolérer aucun adultère, parce que Dieu aime d'un amour total dont on mesure la profondeur à la croix. Il ne peut tolérer de notre part un amour partagé, à moins qu'elle ne soit folle. Une jeune fille vierge ne s'offrira jamais en mariage à un garçon qui ne lui promet que 80% de sa vie et de son cœur. Dans le dialogue que Dieu entame avec notre âme, il veut une réciprocité et une franchise sans réserve. Il y a dans les Proverbes un verset où Dieu dit « Mon fils, donne-moi ton cœur » Proverbes chapitre 23, verset 26. C'est là l'obéissance que Dieu cherche. À celui qui donne à Dieu son cœur, Dieu ouvre totalement son ciel. Il commence à se donner tout entier à cet homme, à cette femme. C'est ce qu'il appelle la plénitude de son esprit. Celui qui calcule n'aura jamais ce trésor. L'amour n'admet pas de réticence, de méfiance. Tu as besoin de revenir chaque jour à la croix pour comprendre tout cela. La deuxième condition de la plénitude de l'Esprit Saint, elle se résume donc dans ce seul mot, l'obéissance, surtout l'obéissance à la parole de Dieu. Notre troisième et dernier message, c'est foncer, foncer par l'Esprit Saint. Foncer. Donc, le troisième principe de la plénitude, c'est de marcher par l'Esprit. Galates, chapitre 5, verset 16. Ce troisième principe de la vie spirituelle peut se résumer également en un seul mot, la foi. Marcher par l'Esprit Saint, c'est croire en Christ. Marcher, cela veut dire aller de l'avant. Il faut donc bouger. Ne pas rester stationnaire. Le monde où nous vivons est un escalier roulant vers le bas. C'est un fleuve qui nous emporte. Il faut monter contre le courant et encore plus vite que cela. Tu me dis, oh là là, ça c'est difficile. Oui, c'est difficile. Sans l'intervention de l'Esprit de Dieu, c'est même impossible. Marcher par l'Esprit Saint, c'est avancer, c'est de foncer face à l'impossible, c'est de voir même à la mort, mais non par nos pauvres moyens, non, sinon par la force, par la puissance qui nous vient de Dieu. Devant la mer Rouge, Dieu a dit à son peuple d'aller de l'avant, et il obéit à Dieu. Et Dieu chassa la mer devant lui. Christ dit à l'homme paralysé de se lever et il fut guéri en obéissant. Donc marcher par l'Esprit Saint, cela veut dire faire la volonté de Dieu. Celle-ci nous paraît presque toujours impossible. Toute la vie spirituelle est humainement irréalisable. Qui peut vivre la vie de Jésus-Christ? Et pourtant, Dieu nous ordonne d'avancer comme l'apôtre Pierre quand il sortit de la barque pour marcher sur l'eau vers Jésus. Nous obéissons et nous fonçons par la foi. Dieu ensuite intervient pour réaliser sa volonté. Nous sommes ainsi placés devant des obstacles formidables. Nous ne pouvons de nous-mêmes réaliser sa volonté, mais nous comptons sur lui. Notre foi est engagée, la promesse de Dieu entre en jeu, nous sommes obligés ou bien de croire en Christ, ou bien de nous effondrer dans l'incrédulité. Mais Dieu ne trompe jamais, ni ne déçoit celui et celle qui se fie à lui. Bien sûr, il éprouve notre foi jusqu'à la limite parfois. Parfois, il nous semble que nous n'en pouvons plus du tout. Nous n'en pouvons plus. Mais Dieu ne nous laisse pas sombrer. Il faut savoir souffrir. Jésus n'a jamais promis la vie trop facile à ses disciples. Pour le suivre, il faut accepter la croix. Mais nous expérimentons alors chaque fois la résurrection. Marcher par l'Esprit Saint, ça, c'est accepter notre mort avec Christ et c'est aussi réaliser la puissance de sa résurrection. Du temps de l'apôtre Paul, la seule manière de voyager de ville en ville, c'était de marcher ou bien d'être transporté ou tiré par une bête qui marchait. On ne pouvait faire qu'un seul pas à la fois. Or, dans la vie spirituelle, il n'y a qu'un moyen de locomotion, la marche. On n'a pas encore de Cadillac spirituel ni d'avion à réaction céleste. Si l'on veut avancer spirituellement, il faut hélas marcher. On est donc obligé de le faire un pas à la fois. La vie spirituelle, elle commence par un acte de foi qui nous entraîne dans une attitude de foi. Et cette attitude nous amène à faire de nouveau un acte de foi. La vie spirituelle, elle devient donc une succession d'actes de foi. Nous vivons dans une dépendance constante de Dieu. Ayant commencé par la foi, nous continuons par la foi. Galates, chapitre 3, verset 2, verset 3, et le chapitre 5, verset 25. Il n'est pas possible de faire deux pas à la fois, ni de faire le troisième ou le dixième pas avant le premier. Si je n'obéis pas à Dieu aujourd'hui, dans la tâche immédiate qu'il m'indique, je ne pourrai jamais aller plus loin et accomplir sa volonté sur une échelle plus grande. Si je ne suis pas fidèle maintenant dans les petites choses, qui va me confier les richesses véritables, je vous le demande. Saint-Luc, chapitre 16, verset 11. Le verbe grec dans ce commandement est autant impératif progressif. Soyez en train de marcher. Soyez en train de marcher. Soyez en train d'avancer. Foncez sans arrêt tous les jours. D'instant en instant. Et ayez donc une foi perpétuelle en Christ. Donc, nous devons marcher par la foi et non pas par la vue uniquement. Hein? Notez 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. À chaque instant, ma foi est mise à l'épreuve. Si je crois en Christ, je lui obéirai. Si je vais de l'avant en comptant sur lui, il accomplira en moi sa volonté. Chaque pas de fait me prépare pour la prochaine étape. Oui, chaque pas va me préparer pour la prochaine étape. Et c'est ainsi que Dieu approfondit ma foi et que je grandis. Nous voudrions tellement voir à l'avance, ou même de tout voir à l'avance pour savoir où nous mène le chemin. C'est ça que nous voulons. Or, dans ce cas-là, il n'y aurait plus aucune place pour la foi, car Dieu nous demande de lui faire totalement confiance Nous dépendons donc absolument de lui. Je ne dis pas que c'est facile. Non, non, non. Je avoue que parfois, ça nous dépasse. Dieu n'outrage donc jamais la raison de l'homme. S'il nous demande de le suivre par la foi et non pas par la raison, eh bien, il tient tout de même compte de notre raison. Les esprits méchants, quand ils possèdent un homme, effacent sa personnalité, ils effacent sa raison et sa volonté. Hein? Or, l'Esprit Saint de Dieu ne le fait jamais. Il respecte notre humanité, pas comme certains gourous. La foi, par contre, est la faculté de perception spirituelle qui nous est donnée à la nouvelle naissance. Elle n'est pas en conflit avec la raison. Par la foi, Dieu rend accessible à la raison des vérités qu'elle reconnaît comme authentiques et qui la satisfont. La foi est le sens spirituel qui nous permet de voir, de toucher et d'entendre Dieu. Et par ce sens, la raison est éclairée et rendue capable de prendre des décisions compétentes. Sans la foi, elle est bornée par un plafond d'inconscience spirituelle et elle opère sans lumière. La foi n'est pas aveugle, comme on le pense parfois. La fausse foi, c'est-à-dire le fanatisme, oui, est aveugle, ça c'est vrai. Mais la véritable foi, basée sur la révélation divine, est loi très claire. Dieu ne nous demande pas de croire contre toute évidence, comme font les credos humains. Il nous donne à chaque pas juste assez de lumière pour que nous soyons certains de la vérité. Il n'y a là rien d'illogique, pas du tout. Hein? Non, 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 n'ayez pas peur. Quand on tombe amoureux, ce n'est pas la raison qui dicte l'objet de son amour. Pourtant, voyez-vous, la raison trouve toutes les pièces justificatives pour engager un homme dans ce chemin. Ainsi, quand on a compris l'amour de Dieu en Christ crucifié, et la raison, notre raison, va s'engager. Ne pas suivre, c'est péché. C'est de la folie, alors que la folie de Dieu, elle est beaucoup plus sage que les hommes. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 25. Chers amis, marchez par le moyen de l'Esprit Saint en comptant sur lui et en vous appuyant sur lui. Comme tu comptes sur tes pieds, sur tes muscles et tes yeux, ainsi compte sur la force et l'intelligence du Saint-Esprit pour te diriger, pour te tenir et pour te frayer le chemin, pour te porter et pour te mener au bout. Il ne te décevra pas. Quand une petite fille compte sur l'appui de son papa en traversant le lit d'un torrent, elle fait preuve de sa foi en lui. Ainsi l'enfant de Dieu est appelé à s'appuyer sur la main de son Père céleste et simplement à obéir. Bien que Dieu ne nous laisse pas voir d'avance les détails du chemin, il ne nous laisse pas pour autant tâtonner sans savoir où aller. Noé avait un objectif, Abraham aussi, Moïse également, l'apôtre Paul avait un objectif formidable. Tout homme et toute femme de Dieu a un but donné par inspiration divine. Dans la Sainte Bible, les hommes de Dieu recevaient généralement, encore jeunes, une vision de Dieu et un appel précis. Toute leur vie était par la suite orientée vers la réalisation de cet appel. Ils ne voyaient pas comment y parvenir, mais ils partaient par la foi sans jamais perdre de vue l'objectif. Toi aussi, tu as besoin d'un appel, d'un objectif, d'un but précis. Donc vise haut, cherche auprès de Dieu son but pour ta vie, puis marche et fonce dans ce sens-là. Tu ressembles à un homme voyant de loin la ville ou la montagne vers laquelle il se dirige. La route devant lui est souvent cachée, il n'en voit peut-être que le premier kilomètre, mais il ne perd pas de vue l'objectif. Il sait où il va. Abraham ne savait ni où il allait, ni comment il devait avoir le fils promis, mais il a finalement mis au monde le peuple par lequel la Bible et le Christ nous sont parvenus. Moïse, face au grand dictateur de son époque, n'avait aucune idée de la façon dont Dieu délivrerait les 2 millions d'esclaves qu'étaient ses frères et sœurs, mais ils furent délivrés. Saint Paul, en partant d'Antioche, ne savait pas comment Dieu allait se servir de lui. Pourtant, il a apporté l'Évangile en Europe et nous a légué des écrits qui valent beaucoup plus que tout l'uranium du monde. Chers auditeurs et auditrices, voici le chemin de la délivrance. Dieu promet à celui, à celle qui marche par l'Esprit, de le délivrer de la convoitise de la chair. Mais voit aussi à ce sujet Romains chapitre 8, versets 2 à 13. Tant que nous acceptons l'esclavage, suivre et obéir de Christ, eh bien, nous sommes délivrés de l'autorité du péché. Tant que nous pouvons suivre, entre guillemets, l'esclavage de Christ et lui obéir, nous allons être délivrés de l'autorité du péché. La puissance de son esprit réduit à l'impuissance le désir du péché. Avant de terminer par la prière, sachez que Dieu sait que nous ne pouvons vaincre le péché par nous-mêmes. C'est pourquoi il nous dit de vaincre le mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 21. Il ne suffit pas de lutter contre nos mauvais désirs. Il faut faire quelque chose de positif à la place de ces choses-là. En acceptant de faire la volonté de Dieu et en fonçant dans ce sens, tu agis positivement par cette action. L'Esprit de Dieu accapare tes facultés et ton énergie et il les canalise. Il ne te reste donc pas de temps ni de force pour faire le mal. Ainsi, ton ancienne nature est progressivement étouffée et domptée par la force supérieure de l'Esprit Saint de Dieu qui est en toi. Vous savez, faire ce que je fais à mon très grand âge, il me faut tout de même environ 6 heures, 7 heures, plus ou moins, étudier pour le prochain sujet. Et ensuite, le matin, comme ce matin, le parler sur le CD, ça ne me tombe pas tout cuit dans la bouche. Mais en utilisant toute la journée, le seul moment où je fais une détente, c'est quand je vais jusqu'à la poste et que je bois un petit café et je reviens pour étudier à nouveau pour le prochain sujet ou la prochaine étude. Et cela m'empêche totalement de commettre des impairs, de commettre un péché quelconque. Vous direz, oh, alors dans ce cas, vous n'avez aucun mérite. Peut-être bien, peut-être bien. Chers amis, le contraire de la foi, c'est l'incrédulité, on l'a compris. Et dans l'opinion de Dieu, l'incrédulité est le péché le plus terrible, car il est mortel. La raison pour laquelle les hommes vont en enfer, c'est tout simplement parce qu'ils ont rejeté la grâce de Dieu et parce qu'ils ne croient pas à la valeur du sang de Christ. Chez l'enfant de Dieu, il va de soi que l'incrédulité, c'est le péché le plus dangereux. Soyez donc vigilants et ayez entièrement confiance le Seigneur nous gardera jusqu'au bout de notre route. Chers amis, nous allons prier ensemble. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Essayons tout de même. Et cette prière, vous savez, vous pouvez la faire vous-même en la répétant après moi. Peut-être pas maintenant parce que je suis obligé de me dépêcher pour terminer. Mais vous pouvez prendre des notes et prier cette prière vous-même. Prions. Béni sois-tu, lumière des hommes, lumière de tous ceux qui s'efforcent de faire le bien et lumière de ceux qui se sentent inadéquats. Béni sois-tu, lumière de ceux qui pensent qu'ils ne font pas de progrès spirituel. Béni sois-tu, lumière de ceux qui se sentent trop pécheurs pour se tourner à nouveau vers toi. Oui, béni sois-tu, lumière de tous ceux qui désespèrent à jamais de vivre bien. Béni sois-tu, lumière de ceux qui sont dépassés par le péché. Béni sois-tu, lumière, la lumière que tu es, Jésus-Christ, la lumière du monde, de l'univers. Béni sois-tu, de ceux qui ont abandonné l'espoir d'être bons. Béni sois-tu, lumière du monde, de ceux qui perdent ou ont perdu leur foi dans les hommes, dans la vie ou même en toi. Aide-les à connaître la vérité et à apprendre à espérer à nouveau. Amen. Amen. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, très chers amis.